L'Iliade, chant 14e. Tout en buvant, Nestor entendit la clameur des hommes, et il dit à l'Asclépiade ces paroles ailées. Divin Macaon, que deviendront ces choses? Voici que la clameur des jeunes hommes grandit autour des nefs. Reste ici, et bois ce vin qui réchauffe, tandis que Écamédée aux beaux cheveux fait tiédir de l'eau qui lavera le sang de ta plaie. Moi, j'irai sur la hauteur voir ce qu'il en est. » Ayant ainsi parlé, il saisit dans sa tente le bouclier de son fils, le brave Thrasymédès, qui lui-même avait pris le bouclier éclatant des reins de son père. Et il saisit aussi une forte lance à pointe des reins. Et sortant de la tente, il vit une chose lamentable. Les Achéens bouleversés, et les Troyens magnanimes les poursuivant, et le mur des Achéens renversé. De même, quand l'onde silencieuse de la grande mer devient toute noire, dans le pressentiment des vents impétueux, et reste immobile, ne sachant encore de quel côté ils souffleront. De même, le vieillard hésitant ne savait s'il se mêlerait à la foule des cavaliers d'Anaïn, ou s'il irait rejoindre Agamemnon, le prince des peuples. Mais il jugea qu'il était plus utile de rejoindre l'Atréide. Et Troyens et Danaïns s'entretuaient dans la mêlée, et les reins solides sonnaient autour de leurs corps, tandis qu'ils se frappaient de leurs épées et de leurs lances à deux pointes. Et Nestor rencontra, venant des nefs, les rois divins que les reins avaient blessés, le Tydéide et Odysseus, et l'Atréide Agamemnon. Leurs nefs s'étaient éloignées du champ de bataille, ayant été tirées les premières sur le sable de la Blanche Mer. Car celles qui vinrent les premières s'avançaient jusque dans la plaine, et le mur protégeait leur poupe. Tout large qu'il était, le rivage ne pouvait contenir toutes les nefs sans resserrer le camp, et les Achéens les avaient rangées par fil dans la gorge du rivage, entre les deux promontoires. Et les rois, l'âme attristée dans leur poitrine, venaient ensemble, appuyés sur leurs lances. Et leur esprit s'effraya quand ils virent le vieux Nestor, et le roi Agamemnon lui dit aussitôt : Ô Nestor Néléiade, gloire des Achéens, pourquoi reviens-tu de ce combat fatal? Je crains que le brave Hector n'accomplisse la menace qu'il a faite dans l'agora des Troyens, de ne rentrer dans Ilios qu'après avoir brûlé les nefs et tué tous les Achéens. Il l'a dit et il le fait. Ah certes, les Achéens au bel Cnémide ont contre moi la même colère qu'Achilleus, et ils ne veulent plus combattre autour des nefs. Et le cavalier gérénien Nestor lui répondit : Certes, tu dis vrai, et Zeus qui tonne dans les hauteurs n'y peut rien lui-même. Le mur est renversé, que nous nous flattions d'avoir élevé devant les nefs comme un rempart inaccessible. Et voici que les Troyens combattent maintenant au milieu des nefs, et nous ne saurions reconnaître, en regardant avec le plus d'attention, de quel côté les Achéens roulent bouleversés. Mais ils tombent partout, et leurs clameurs montent dans l'Ouranos. Pour nous, délibérons sur ces calamités, si toutefois une résolution peut être utile. Je ne vous engage point à retourner dans la mêlée, car un blessé ne peut combattre. » Et le roi des hommes, Agamemnon, lui répondit : « Nestor, puisque le combat est au milieu des nefs, et que le mur et le fossé ont été inutiles, qui ont coûté tant de travaux aux Danaïns, et qui devaient, pensions-nous, être un rempart inaccessible, c'est qu'il plaît sans doute au très puissant Zeus que les Achéens périssent tous, sans gloire, loin d'Argos. Je reconnaissais autrefois qu'il secourait les Danaïns, mais je sais maintenant qu'il honore les Troyens comme des bienheureux, et qu'il enchaîne notre vigueur et nos mains. Allons, obéissez à mes paroles, traînons à la mer les nefs qui en sont le plus rapprochés, restons sur nos ancres jusqu'à la nuit, et si les Troyens cessent le combat, nous pourrons mettre à la mer divine le reste de nos nefs. Il n'y a nulle honte à fuir notre ruine entière à l'aide de la nuit, et mieux vaut fuir les maux que d'en être accablé. » Et le sage Odysseus, le regardant d'un œil sombre, lui dit : Atréide, quelle parole mauvaise a passé à travers tes dents ! Tu devrais conduire une armée de lâches au lieu de nous commander, nous, à qui Zeus a donné de poursuivre les guerres rudes, de la jeunesse à la vieillesse et jusqu'à la mort. Ainsi, tu veux renoncer à la grande ville des Troyens pour laquelle nous avons souffert tant de maux. Tais-toi, que nul d'entre les Achéens n'entende cette parole, que n'aurait dû prononcer aucun homme d'un esprit juste. Un roi qui obéisse des peuples aussi nombreux que ceux auxquels tu commandes parmi les Achéens. Moi, je condamne cette parole que tu as dite, cet ordre de traîner à la mer les nefs bien construites, loin des clameurs du combat. Ne serait-ce pas combler les désirs des Troyens déjà victorieux? Comment les Achéens soutiendraient-ils le combat pendant qu'ils traîneraient les nefs à la mer? Ils ne songeraient qu'aux nefs et négligeraient le combat. Ton conseil nous serait fatal, prince des peuples. Et le roi des hommes, Agamemnon, lui répondit. Ô Odysseus, tes rudes paroles ont pénétré dans mon cœur. Je ne veux point que les fils des Achéens traînent à la mer, contre leur gré, les nefs bien construites. Maintenant, si quelqu'un a un meilleur conseil à donner, jeune ou vieux, qu'il parle, et sa parole me remplira de joie. Et le brave Diomédès parla ainsi au milieu d'eux. Celui-là est près de vous, et nous ne chercherons pas longtemps si vous voulez obéir. Et vous ne me blâmerez point de parler, parce que je suis le plus jeune, car je suis né d'un père illustre, et je descends d'une race glorieuse. Et mon père est Idéus, qui occupe un large sépulcre dans Thèbes. Portéus engendra 3 fils irréprochables, qui habitaient Pleuron et la haute Calydon, Agrios, Mélas, et le 3e était le cavalier Oïnéus, le père de mon père, et le plus brave des 3. Et celui-ci demeura chez lui, mais mon père habita Argos. Ainsi le voulurent Zeus et les autres dieux. Et mon père épousa une des filles d'Adrestès, et il habitait une maison pleine d'abondance, car il possédait beaucoup de champs fertiles, entourés de grands vergers. Et ses brebis étaient nombreuses, et il était illustre par sa lance entre tous les Achéens. Vous savez que je dis la vérité, que ma race n'est point vile, et vous ne mépriserez point mes paroles. Allons vers le champ de bataille, bien que blessés, loin des traits, afin que nous ne recevions pas blessure sur blessure. Mais animons et excitons les Achéens, qui déjà se lassent et cessent de combattre courageusement. Il parla ainsi, et ils l'écoutèrent volontiers et lui obéirent. Et le roi des hommes, Agamemnon, les précédait. Et l'illustre qui ébranle la terre les vit, et vint à eux sous la forme d'un vieillard. Il prit la main droite de l'Atréide Agamemnon, et il lui dit « Atréide, maintenant le cœur féroce d'Achilleus se réjouit dans sa poitrine, en voyant la fuite et le carnage des Achéens. Il a perdu l'esprit. Qu'un dieu lui rende autant de honte. Tous les dieux heureux ne sont point irrités contre toi. Les princes et les chefs des Troyens empliront encore la plaine de poussière, et tu les verras fuir vers leur ville, loin des nefs et des tentes. » Ayant ainsi parlé, il se précipita vers la plaine en poussant un grand cri, tel que celui de 9 ou 10 000 hommes qui se ruent au combat pour repousser de leur poitrine. Tel fut le cri du roi qui ébranle la terre, et il versa la force dans le cœur des Achéens, avec le désir de guerroyer et de combattre. Erré regardait, assise sur un trône d'or au sommet de l'Olympos, et elle reconnut aussitôt son frère, qui s'agitait dans la glorieuse bataille, et elle se réjouit dans son cœur. Et elle vit Zeus assis au faîte de l'Ida, où naissent les sources, et il lui était odieux. Aussitôt, la vénérable Érée aux yeux de bœuf songea au moyen de tromper Zeus tempétueux, et ceci lui sembla meilleur d'aller le trouver sur l'Ida, pour exciter en lui le désir amoureux de sa beauté, afin qu'un doux et profond sommeil fermât ses paupières et obscurcît ses pensées. Et elle entra dans la chambre nuptiale que son fils bien-aimé Héphaïstos avait faite. Et il avait adapté aux portes solides un verrou secret, et aucun des dieux n'aurait pu les ouvrir. Elle entra et ferma les portes resplendissantes. Et d'abord, elle lava son beau corps avec de l'ambroisie, puis elle se parfuma d'une huile divine dont l'arôme se répandit dans la demeure de Zeus, sur la terre et dans l'Ouranos. Et son beau corps étant parfumé, elle peigna sa chevelure et tressa de ses mains ses cheveux éclatants, beaux et divins, qui flottaient de sa tête immortelle. Et elle revêtit une chlamyde divine qu'Athénée avait faite elle-même et ornée de 1000 merveilles. Et elle la fixa sur sa poitrine avec des agrafes d'or. Et elle mit une ceinture à 100 franges, et à ses oreilles bien percées, des pendants travaillés avec soin et ornée de 3 pierres précieuses, et la grâce l'enveloppait tout entière. Ensuite, la déesse mit un beau voile blanc comme Hélios, et à ses beaux pieds de belles sandales. S'étant ainsi parée, elle sortit de sa chambre nuptiale, et appelant Aphrodite loin des autres dieux, elle lui dit « M'accorderas-tu, chère fille, ce que je vais te demander, ou me refuseras-tu, irritée de ce que je protège les Danaïens et toi les Troyens ?» Et la fille de Zeus, Aphrodite, lui répondit « Vénérable Érée, fille du grand Cronos, dis ce que tu désires. Mon cœur m'ordonne de te satisfaire si je le puis, et si c'est possible. » Et la vénérable Érée qui médite des ruses lui répondit « Donne-moi l'amour et le désir à l'aide desquels tu domptes les dieux immortels et les hommes mortels. Je vais voir aux limites de la terre, Okeanos, origine des dieux, et la maternelle Tétis qui m'ont élevé et nourri dans leur demeure, m'ayant reçu de rayer, quand Zeus au large regard jeta Cronos sous la terre et sous la mer stérile. Je vais les voir, afin d'apaiser leurs dissensions amères. Déjà depuis longtemps, ils ne partagent plus le même lit, parce que la colère est entrée dans leur cœur. Si je puis les persuader par mes paroles, et si je les rends au même lit, pour qu'ils puissent s'unir d'amour, ils m'appelleront leur bien-aimé et vénérable. » Et Aphrodite, qui aime les sourires, lui répondit « Il n'est point permis de te rien refuser, à toi qui couches dans les bras du grand Zeus. » Elle parla ainsi, et elle détacha de son sein la ceinture aux couleurs variées où résident toutes les voluptés, et l'amour, et le désir, et l'entretien amoureux, et l'éloquence persuasive qui trouble l'esprit des sages. Et elle mit cette ceinture entre les mains de Érée, et elle lui dit « Reçois cette ceinture aux couleurs variées, où résident toutes les voluptés, et mets-la sur ton sein, et tu ne reviendras pas sans avoir fait ce que tu désires. » Elle parla ainsi, et la vénérable Érée aux yeux de bœuf rit, et en riant, elle mit la ceinture sur son sein. Et Aphrodite, la fille de Zeus, rentra dans sa demeure, et Érée joyeuse quitta le fait de l'Olympos. Puis traversant la Pierrée et la riante Hématiée, elle gagna les montagnes neigeuses des Tréquiens, et ses pieds ne touchaient point la terre. Et de Latos, elle descendit vers la mer agitée et parvint à Lemnos, la ville du divin Thoas, où elle rencontra Hypnos, frère de Thanatos. Elle lui prit la main et lui dit ces paroles. « Hypnos, roi de tous les dieux et de tous les hommes, si jamais tu m'as écouté, obéis-moi aujourd'hui, et je ne cesserai de te rendre grâce. Endors sous leurs paupières les yeux splendides de Zeus, dès que je serai couché dans ses bras, et je te donnerai un beau trône incorruptible, tout en or, qu'a fait mon fils Héphaïstos qui boite des deux pieds. Et il y joindra un escabeau sur lequel tu appuieras tes beaux pieds pendant le repas. » Et le doux Hypnos, lui répondant, parla ainsi. « Érée, vénérable déesse, fille du grand Cronos, j'assoupirai aisément tout autre des dieux immortels, et même le fleuve Okeanos, cette source de toutes choses. Mais je n'approcherai point du Cronion Zeus, et je ne l'endormirai point, à moins qu'il me l'ordonne. Déjà il m'a averti, grâce à toi, le jour où son fils magnanime naviguait loin d'Ilios, de la cité dévastée des Troyens. Et j'enveloppai doucement les membres de Zeus tempétueux, tandis que tu méditais des calamités, et que répandant sur la mer le souffle des vents furieux, tu poussais Héraclès vers Coos bien peuplé, loin de tous ses amis. Et Zeus, s'éveillant indigné, dispersa tous les dieux par l'Ouranos, et il me cherchait pour me précipiter du haut de l'éther dans la mer. Cynix, qui dompte les dieux et les hommes, et que je suppliais en fuyant, ne m'eût sauvé. Et Zeus, bien que très irrité, s'apaisa, craignant de déplaire à la rapide Nyx. Et maintenant, tu m'ordonnes de courir le même danger. » Il parla ainsi, et la vénérable Érée aux yeux de bœuf lui répondit. « Hypnos, pourquoi t'inquiéter ainsi? Penses-tu que Zeus, au large regard, s'irrite pour les Troyens autant que pour son fils Héraclès? Viens, et je te donnerai pour épouse une des plus jeunes Charites, Pasithéée, que tu désires sans cesse. » Elle parla ainsi, et Hypnos, plein de joie, lui répondit. Jure, par l'eau du Styx, un inviolable serment. Touche d'une main la terre, et de l'autre la mer marbrée, et qu'ils soient témoins, les dieux souterrains qui vivent autour de Cronos, que tu me donneras Pasithéé que je désire sans cesse. » Il parla ainsi, et la déesse errée au bras blanc jura aussitôt, comme il le désirait, et elle nomma tous les dieux sous-tartaréens qu'on nomme titans. Et après ce serment, ils quittèrent tous deux Lemnos et Imbros, couverts d'une nuée, et faisant rapidement leur chemin. Et laissant la mer Alectos, ils parvinrent à Lida qui abonde en bêtes fauves et en sources, et sous leurs pieds se mouvait la cime des bois. Là, Hypnos resta en arrière de peur que Zeus le vît, et il monta dans un grand pin né sur Lida et qui s'élevait jusque dans les terres. Et il se blottit dans les épais rameaux du pin, semblable à l'oiseau bruyant que les hommes appellent Calchis et les dieux Chimindis. Erré gravit rapidement le haut Gargaros, au fait de Lida, et Zeus qui amasse les nuées la vit, et aussitôt le désir s'empara de lui, comme autrefois, quand ils partagèrent le même lit, loin de leurs parents bien-aimés. Il s'approcha et lui dit, « Erré, pourquoi as-tu quitté l'Olympos? Tu n'as ni tes chevaux, ni ton char. » Et la vénérable Erré qui médite des ruses lui répondit, « Je vais voir. » Aux limites de la terre, Okeanos, origine des dieux, et la maternelle Tétis, qui m'ont élevé et nourri dans leur demeure. Je vais les voir, afin d'apaiser leurs dissensions amères. Déjà depuis longtemps, ils ne partagent plus le même lit, parce que la colère est entrée dans leur cœur. Mes chevaux, qui me portent sur la terre et sur la mer, sont aux pieds de Lida en nombreuses sources. Et c'est à cause de toi que j'ai quitté l'Olympos, craignant ta colère, si j'allais en te le cachant dans la demeure du profond Okeanos. » Et Zeus qui amasse les nuées lui dit, « Erré, attends et tu partiras ensuite, mais couchons-nous plein d'amour. Jamais le désir d'une déesse ou d'une femme n'a dompté ainsi tout mon cœur. Jamais je n'ai tant aimé, ni l'épouse d'Ixion, qui enfanta Peirithoos, semblable à un dieu par la sagesse, ni la fille d'Acrision, la belle Danaé, qui enfanta Perséus, le plus illustre de tous les hommes, ni la fille du magnanime Phénix, qui enfanta Minos et Radamantès, ni Sémélé, qui enfanta Dionysos, la joie des hommes, ni Alcménée, qui enfanta aussi dans Thèbes, mon robuste fils Héraclès, ni la reine Déméter aux beaux cheveux, ni l'illustre Leto, ni toi-même, car je n'ai jamais ressenti pour toi tant de désir et tant d'amour. » Et la vénérable Erré, pleine de ruse, lui répondit, « Très redoutable Cronide, qu'as-tu dit? Tu désires que nous nous unissions d'amour, maintenant, sur le fait de Lida ouvert à tous les regards. Si quelqu'un des dieux qui vivent toujours nous voyait coucher et en avertissait tous les autres, je n'oserais plus rentrer dans tes demeures en sortant de ton lit, car ce serait honteux. Mais si tels sont ton désir et ta volonté, la chambre nuptiale que ton fils Héphaïstos a faite a des portes solides. C'est là que nous irons dormir, puisqu'il te plaît que nous partagions le même lit. » Et Zeus qui amasse les nuées lui répondit, « Ne crains pas qu'aucun dieu te voie, ni aucun homme. Je t'envelopperai d'une nuée d'or, telle que Hélios lui-même ne la pénétrerait pas, bien que rien n'échappe à sa lumière. » Et le fils de Cronos prit l'épouse dans ses bras. Et sous eux, la terre divine enfanta une herbe nouvelle, le lotos brillant de rosée, et le safran, et l'hyacinthe épaisse et molle, qui les soulevait de terre. Et ils s'endormirent, et une belle nuée d'or les enveloppait, et d'étincelantes rosées en tombaient. Ainsi dormait tranquille le père Zeus sur le haut Gargaros, dompté par le sommeil et par l'amour, en tenant l'épouse dans ses bras. Et le doux Hypnos courut aux nefs des Achéens emporter la nouvelle à celui qui ébranle la terre. Et il lui dit en paroles ailées, « À toi, Poséidon, de venir en aide aux Achéens, et donne-leur la victoire au moins quelques instants, pendant que Zeus dort, car je l'ai assoupi mollement, et Erré l'a séduit par l'amour afin qu'il s'endormît. » Il parla ainsi, et retourna vers les illustres tribus des hommes. mais il excita plus encore Poséidon à secourir les Danaïens. Et Poséidon, s'élançant au premier rang, s'écria « Argiens, laisserons-nous de nouveau la victoire au Priamide d'Hector, afin qu'il prenne les nefs et se glorifie. Il triomphe, parce qu'Achilleus reste le cœur irrité dans ses nefs creuses. Mais nous n'aurons plus un si grand regret d'Achilleus si nous savons nous défendre les uns les autres. Allons, obéissez-moi tous. Couverts de nos meilleurs et de nos plus grands boucliers, les casques éclatants en tête et les longues piques en main, allons, et je vous conduirai. Et je ne pense pas que le Priamide d'Hector nous attende, bien qu'il soit plein d'audace. Que les plus braves cèdent leurs boucliers légers, s'ils en ont de tels, aux guerriers les plus faibles, et qu'ils s'abritent sous de plus grands. » Il parla ainsi, et chacun obéit. Et les rois eux-mêmes, quoique blessés, rangèrent les lignes. Le Tydéide, Odysseus et l'Atréide Agamemnon, parcourant les rangs, échangeaient les armes, donnant les plus fortes aux plus robustes et les plus faibles aux moins vigoureux. Et tous s'avancèrent, revêtus de l'airain éclatant. Et celui qui ébranle la terre les précédait, tenant dans sa forte main une longue et terrible épée, semblable à l'éclair, telle qu'on ne peut l'affronter dans la mêlée lamentable, et qui pénètre les hommes de terreur. Et l'illustre Hector, de son côté, rangeait les Troyens en bataille, et tous deux préparaient une lutte horrible. Poséidon à la chevelure bleue, et l'illustre Hector, celui-ci secourant les Troyens, et celui-là les Achéens. Et la mer inondait la plage jusqu'aux tentes et aux nefs, et les deux peuples se heurtaient avec une grande clameur. Mais ni l'eau de la mer qui roule sur le rivage, poussée par le souffle furieux de Boréas, ni le crépitement d'un vaste incendie qui brûle une forêt dans les gorges des montagnes, ni le vent qui rugit dans les grands chênes, ne sont aussi terribles que n'était immense la clameur des Achéens et des Troyens, se ruant les uns sur les autres. Et le premier, l'illustre Hector lança sa pique contre Aias, qui s'était retourné sur lui, et il ne le manqua pas, car la pique frappa la poitrine, là où les deux baudriers se croisent, celui du bouclier et celui de l'épée au clou d'argent, et ils préservèrent la chair délicate. Hector fut affligé qu'un trait rapide se fût vainement échappé de sa main, et fuyant la mort, il se retira dans la foule de ses compagnons. Mais comme il se retirait, le grand Télamonien Aias saisit une des roches qui retenait les câbles des nefs et qui se rencontrait sous les pieds des combattants. Et il en frappa Hector dans la poitrine, au-dessus du bouclier, près du cou, après l'avoir soulevé et l'avoir fait tourbillonner. De même qu'un chêne tombe, déraciné par l'éclair du grand Zeus, et que l'odeur du soufre s'en exhale, et que chacun s'en épouvante, tant est terrible la foudre du grand Zeus. De même la force d'Hector tomba dans la poussière, et sa pique s'échappa de sa main, et son casque tomba, et son bouclier aussi, et toutes ses armes d'airain résonnèrent. Et les fils des Achéens accoururent avec de grands cris, espérant l'entraîner, et ils lancèrent d'innombrables traits. Mais aucun ne put blesser le prince des peuples, car les plus braves le protégèrent aussitôt. Polydamas, Énéas, et le divin Agénor, et Sarpédon, le chef des Lykiens, et l'irréprochable Glaucos. Aucun ne négligea de le secourir, et tous tenaient devant lui leurs boucliers bombés. Et ses compagnons l'emportèrent dans leurs bras, loin de la mêlée, jusqu'à l'endroit où se tenaient ses chevaux rapides, et son char et leur conducteur. Et ils l'emportèrent vers la ville, poussant des gémissements. Et quand ils furent parvenus au guet du Xanthos tourbillonnant, qu'engendra l'immortel Zeus, ils le déposèrent du char sur la terre, et ils le baignèrent. Et revenant à lui, il ouvrit les yeux. Mais tombant à genoux, il vomit d'un sang noir, et de nouveau il se renversa contre terre. Et une nuit noire l'enveloppa, tant le coup d'Aias l'avait dompté. Les Argiens, voyant qu'on enlevait Hector, se ruèrent avec plus d'ardeur sur les Troyens, et ne songèrent qu'à combattre. Le premier, le fils d'Oïleus, le rapide Aias, de sa lance aiguë en bondissant, blessa Ios Énopide, que l'irréprochable nymphe Néis enfanta d'Enops, qui paissait ses troupeaux sur les rives du Satnioïs. Et l'illustre Oïléiade le blessa de sa lance dans le ventre, et il tomba à la renverse, et autour de lui, les Troyens et les Danaïens engagèrent une lutte terrible. Et le Pantoïde Polydamas vint le venger. Et il frappa Protoénor à rayes liquides à l'épaule droite. Et la forte lance entra dans l'épaule. Protoénor, renversé, saisit la poussière avec ses mains. Et Polydamas s'écria insolemment. « Je ne pense pas qu'un trait inutile soit parti de la main du magnanime Pantoïde. Un Argien l'a reçu dans le corps, et il s'appuiera dessus pour descendre dans les demeures d'Hédès. » Il parla ainsi, et les Argiens furent remplis de douleur en l'entendant se glorifier ainsi. Et le belliqueux télamonien Aias fut troublé, ayant vu Protoénor tomber auprès de lui. Et aussitôt, il lança sa pique contre Polydamas qui se retirait. Mais celui-ci évita la mort en sautant de côté, et l'anténoride Archélocos reçut le coup, car les dieux lui destinaient la mort. Et il fut frappé à la dernière vertèbre du cou, et les deux muscles furent tranchés, et sa tête, sa bouche et ses narines touchèrent la terre avant ses genoux. Et Aias cria à l'irréprochable Polydamas, « Vois, Polydamas, et dis la vérité. Ce guerrier mort ne suffit-il pas pour venger Protoénor ? Il ne me semble ni lâche, ni d'une race vile. C'est le frère du dompteur de chevaux Anténor, ou son fils, car il a le visage de cette famille. » Et il parla ainsi, le connaissant bien. Et la douleur saisit les Troyens. Alors Acamas, debout devant son frère mort, blessa d'un coup de lance le boyotien Promachos, comme celui-ci traînait le cadavre par les pieds. Et Acamas, triomphant, cria « Argiens destinés à la mort, et toujours prodigues de menaces, la lutte et le deuil ne seront pas pour nous seuls, et vous aussi vous mourrez. Voyez, votre Promachos dort dompté par ma lance, et mon frère n'est pas resté longtemps sans vengeance. Aussi, tout homme souhaite de laisser dans ses demeures un frère qui le venge. » Il parla ainsi, et ses paroles insultantes remplirent les Argiens de douleur, et elles irritèrent surtout l'âme de Pénéléos, qui se rua sur Acamas. Mais celui-ci n'osa pas soutenir le choc du roi Pénéléos, qui blessa Ilionéus, fils de Sephorbas, riche en troupeaux, que Hermès aimait entre tous les Troyens et à qui il avait donné de grands biens. Et il le frappa sous le sourcil, au fond de l'œil, d'où la pupille fut arrachée. Et la lance traversant l'œil sortit derrière la tête, et Ilionéus, les mains étendues, tomba. Puis Pénéléos, tirant de la gaine son épée aiguë, coupa la tête qui roula sur la terre avec le casque et la forte lance encore fixée dans l'œil. Et Pénéléos la saisit, et la montrant aux Troyens, il leur cria « Allez de ma part, Troyens, dire au père et à la mère de l'illustre Ilionéus qu'ils gémissent dans leur demeure. Ah, l'épouse de l'allégénoride Promachos ne se réjouira pas non plus au retour de son époux bien-aimé, quand les fils des Achéens, loin de Troie, s'en retourneront sur leur nef. » Il parla ainsi, et la pâle terreur saisit les Troyens, et chacun d'eux regardait autour de lui, cherchant comment il éviterait la mort. Dites-moi maintenant, muse, qui habitait les demeures olympiennes, celui des Achéens qui enleva le premier des dépouilles sanglantes, quand l'illustre qui ébranle la terre eût fait pencher la victoire. Le premier, Aias Télamonien, frappa Hyrtios Girtiade, chef des braves Mysiens, et Antilochos tua Phalcès et Mermeros, et Mériones tua Maurice et Hippotion, et Teucros tua Protoon et Périphétès, et l'Atréide Ménélaos blessa aux côtés le prince des peuples Hyperénor. Il lui déchira les intestins, et l'âme s'échappa par l'horrible blessure, et un brouillard couvrit ses yeux. Mais Aias, l'agile fils d'Oïléus, en tua bien plus encore, car nul n'était son égal pour atteindre ce que Zeus met en fuite.